Pokermenteur.
Pokermenteur.
Avec Patrick Trouillou dans le rôle de Patrick Trouillou
et Franck Bonnet dans le rôle de Franck Bonnet.
Pokermenteur.
Pokermenteur.
L'émission qui interroge le monde
de Villefranche à Tataouine.
Galade 100.9.
Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je suis un peu troublé, décidément. Nous sommes en fin de journée. Vous êtes bien sur Calade 100.9, Poker Menteur, votre émission favorite chaque mois. Et aujourd'hui, nous allons parler du Maghreb. Et avant de parler du Maghreb, on va faire une petite rubrique, une nouvelle rubrique, qui donc commence ce mois-ci, qui s'appelle le « Qui suis-je ?».
Chouette !
N'est-ce pas ? Premier « Qui suis-je ?» de l'année en rapport avec le thème, je précise. J'ai été journaliste et prix Nobel en 1957 de littérature. Je suis mort dans un accident de voiture en 1960. Qui suis-je ?
Je sais pas.
On va donner évidemment la réponse à la fin de l'émission.
On a donc une cinquantaine de minutes pour y réfléchir.
À peu près. Alors justement, okay. Patrick.
Oui.
Déjà bonjour. Enfin bonsoir.
Bonjour.
Décidément. Tu vas nous présenter, enfin, dans un premier temps, notre invité de ce soir.
Oui, parce que pour notre émission sur le Maghreb, nous avons invité un spécialiste de quoi ? Du Maghreb, justement. Et ce spécialiste, Garcia, il est à côté de moi. Bonjour Cyril.
Bonjour messieurs.
Alors Cyril, bonjour. Vous êtes enseignant et historien. Vous êtes spécialiste du Maghreb, d'où votre présence ici. Vous avez déjà écrit deux ouvrages, dont un traite de la guerre d'Algérie. Il se peut qu'on fasse, dans un futur plus ou moins lointain, une émission spéciale sur la guerre d'Algérie. On y reviendra. Vous écrivez régulièrement dans Causeur, le site Causeur, et vous avez un blog qui s'appelle un Uber pour Tobrouk, qui est très sympa et très intéressant, et qui donc traite bien sûr de cette thématique du Maghreb. Voilà, là je vous ai présenté très rapidement, mais comme nos auditeurs aimeraient en savoir un petit peu plus, je vais vous laisser prendre la suite et vous présenter de façon un peu plus détaillée. On vous écoute, Cyril.
Bah, écoutez, déjà, merci de votre invitation. Alors en effet, je m'appelle Cyril Garcia, je suis historien, je suis calédois.
Ah, ça c'est bien.
Ça arrive. On est 35 000, un peu plus. Je suis, après une période d'avoir travaillé notamment dans des cabinets avec des hommes politiques, notamment Arnaud Montebourg à la fin.
Conseil général de Saône-et-Loire.
Saône-et-Loire, oui. J'ai ensuite basculé dans l'écriture en écrivant deux ouvrages, dont un sur la guerre d'Algérie, en effet, préfacé par Benjamin Stora.
Historien très très renommé.
Très célèbre, oui.
Sur le rôle des universitaires pendant la guerre, quel que soit le camp d'ailleurs.
D'accord.
Et parallèlement, j'ai été aussi, je suis toujours d'ailleurs adhérent d'une association qui s'appelle France-Algérie, qui a un lien un peu avec mon passé, puisque j'ai milité auprès de Jean-Pierre Chevènement à une période. Et c'est ce monsieur d'ailleurs qui dirige encore cette association qui a été créée par le général de Gaulle pour maintenir les liens justement entre nos deux pays.
En quelle année ça a été créé ça ?
63.
D'accord.
Donc juste après.
Juste après l'indépendance.
Ouais. Ouais, le but était justement de ne pas
de
couper.
De garder le lien.
De ne pas couper, disons, malgré une relation tumultueuse, les liens entre deux pays, et puis avec les intérêts affectifs que ça peut avoir, et matériels, bien sûr.
D'accord. Mais vous dites, j'ai mal compris.
Oui, c'est ça, oui.
Chevènement qui gérait cette association ?
Qui gérait cette association, oui, d'État, oui.
D'accord.
Il y a eu d'autres personnes auparavant, Germaine Tillon, etc.
D'accord, oui.
Donc des gens qui ont toujours eu des liens, disons, avec le Maghreb en général, puis l'Algérie.
Ok, donc vous êtes membre de cette association.
Oui, et puis depuis septembre, alors je donne aussi des cours à l'Institut d'études politiques de Lyon, en Master 2 sur la coopération justement entre les pays arabes et puis la France, en sciences politiques. Et en septembre, j'ai créé un blog lié au monde arabe et au Maghreb qui s'appelle Un Uber pour Tobrouk. Donc j'avais choisi le thème en lien à une autre passion qui est le cinéma, bien sûr.
Voilà, donc c'est une référence à Un taxi pour Tobrouk dans Rivière-Neuil.
C'est ça.
Et Uber, c'est pour la touche moderne, en quelque sorte, et le clin d'œil, je présume.
Tout à fait.
D'ailleurs, l'action se passe en Libye, d'après mes souvenirs.
Ouais.
C'est ça.
Tobrouk, Libye, oui. Et donc, depuis, mes papiers passent, en effet, sur le site de Causeur. Et puis j'étais invité dernièrement sur France Inter pour parler des élections présidentielles.
Un plateau un petit peu tumultueux avec quatre intervenants. Je crois qu'il y avait un ancien spécialiste des services spéciaux français.
Il y avait carrément le préfet Yves Bonnet qui a dirigé la DST dans les années 80. Martine Gozlan de Marianne.
Oui, journaliste haute en couleur.
Oui, enfin en couleur. Haute, non.
Je me souviens plus du dernier invité, c'était qui?
Et puis Asni Abidi qui est universitaire algérien.
Oui, tout à fait.
À Genève et puis à Paris.
Ce fut un débat animé.
Animé et très intéressant d'ailleurs. Ouais. D'ailleurs, plus animé, plus intéressant.
Oui, tout à fait. Tout à fait.
Ça montre que il y a débat.
Très bien. Ok. On s'arrête là pour votre présentation. On garde un petit peu de mystère quand même.
Pas de souci.
Très bien. Je vais laisser la parole à Franck pour la suite. On va rentrer dans le vif du sujet, Franck.
Alors, le Maghreb. Première question pour vous, Cyril. Comment pourrait-on délimiter géographiquement le Maghreb?
Alors, généralement, on le délimite en partant de la Mauritanie jusqu'à la Libye et en incluant le Maroc, l'Algérie et la Tunisie.
D'accord.
Alors, et donc, le lien, en réalité, c'est les populations qui y vivent, qui sont des populations berbères, une population qui est locale. D'ailleurs, le mot Maghreb est un mot arabe. En général, ils n'apprécient pas spécialement qu'on puisse... Beaucoup n'apprécient pas qu'on utilise ce terme.
Ah oui, c'est vrai.
Ça les rattache un petit peu à une occupation arabe.
Ouais. Quelle est la signification? Donc le terme Maghreb est péjoratif dans leur esprit.
Pas pour tous, attention. Hein. Mais disons que pour ce qu'on appelle les berbéristes, les gens qui sont très attachés à la culture berbère, certains n'aiment pas spécialement ce terme. Ils préfèrent le terme ce qu'on appelle d'Afrique du Nord pour garder un cadre géographique, ou d'Amazigh, qui est un terme berbère qui veut dire homme libre.
Ok, mais là, le problème, c'est que les berbères, ils imposent leur définition à d'autres membres d'Afrique du Nord qui ne sont pas berbères. Il n'y a pas que des berbères, je crois.
La majorité sont quand même des berbères, ce qu'on appelle arabisés. C'est-à-dire qu'il y a eu en réalité très peu de mélange. Quand les cavaliers arabes ont conquis le territoire au 8e siècle, 7e-8e siècle, ils se sont énormément appuyés sur des supplétifs qui venaient de Libye et qui étaient eux-mêmes des berbères. Donc il y a eu des mélanges, mais peu en réalité.
D'accord, donc la partie berbère est plus importante que je le pensais.
Oui.
D'accord.
Alors bien sûr, très souvent, beaucoup de berbères sont partis dans les montagnes. Donc la culture berbère est restée politiquement et culturellement très très forte en Kabylie, dans le Rif, etc. Mais globalement, c'est une population qu'on pourrait appeler des berbères arabisés, si vous le souhaitez.
Ok. Donc les Kabyles sont aussi des berbères.
Sont des berbères.
D'accord. On en reparlera quand on parlera justement de l'Algérie. Alors, est-ce qu'on peut dire aussi, alors, j'en reviens encore à la géographie, que l'Atlas est l'épine dorsale du Maghreb? Est-ce que ça peut se dire?
Si on est marocain, oui. Mais en réalité, le Sahara pourrait être une épine dorsale, comme la Méditerranée aussi, un tout petit peu. Enfin, oui, c'est une chaîne de montagnes qui compte, c'est sûr. Surtout quand on connaît un peu le poids qu'ont pu avoir des dynasties berbères comme les Almohades, les Almoravides. Mais c'est une épine dorsale parmi d'autres.
D'accord. Alors, on va commencer par le commencement, pourrais-je dire. La conquête de l'Algérie, 1830. Alors, quelles sont les causes? Pourquoi est-ce que la France décide de conquérir l'Algérie?
Alors, Elles sont multiples. On connaît tous le coup de l'éventail.
Non, pas du tout. Je ne connais pas. Moi, je suis lignard de la bande.
Expliquez le coup de l'éventail.
Pour faire plus bref, des contentieux économiques existaient entre les deux pays, notamment liés à des récoltes de blé. Et il y avait aussi, à l'époque, aussi une perte de prestige de la part du pouvoir royal français. Donc il a été décidé une conquête qui, au départ, était une conquête qui devait simplement se limiter aux côtes, puisque beaucoup de militaires étaient contre de s'aventurer, on va dire, trop loin des terres.
D'accord.
Une autre raison aussi qui à mettre de côté, c'est aussi l'activité de piraterie.
Des barbaresques,
qui étaient des pirates, qui allaient sur les côtes siciliennes, de Corse, des Baléares, pour faire de la capture, notamment de femmes, et pas que. Donc
tout ça, ça a poussé le pouvoir français à débarquer en Algérie.
Les raisons sont toujours triples, en réalité. Elles sont toujours des questions de prestige, des questions économiques, et puis des questions politiques, au sens géopolitique du terme. Donc, une conquête qui a été dure, à tout point de vue. Un des généraux qui s'occupait de cette conquête s'appelait le général Bugeaud. Il y a eu les enfumades, c'est-à-dire les personnes qu'on enfermait dans des grottes en les étouffant. Ça a été vraiment une
assez terrible.
Une assez terrible et qui marque encore, alors même si c'est toujours instrumentalisé, hein, mais qui marque quand même les esprits encore.
Qui reste dans la mémoire.
Qui reste dans la mémoire, oui.
Algérien, d'accord.
Donc, je ne dis pas de bêtises, c'est bien Charles X qui avait décidé ça au départ.
En grande partie.
D'accord, et ça s'est prolongé dans le temps, Louis-Philippe.
Ça s'est vraiment accéléré avec Louis-Philippe, oui.
Ouais. Alors, qu'est-ce que tu veux un peu nous en parler de la période de Louis-Philippe et la Seconde République aussi. Mmh. Qu'est-ce qu'elle a fait par rapport à l'Algérie?
L'Algérie a été départementalisée au cours des années 1870-80.
Mmh.
Donc c'est devenu rapidement un département.
L'Algérie était, à partir de là, un département français comme les autres.
Un département français comme les autres.
D'accord.
À la seule exception que l'immense majorité de la population, qui était musulmane, donc, qui avait refusé de supprimer certains codes religieux pour pouvoir bénéficier de la citoyenneté française,
oui.
Était en dehors des lois de la République. Ça veut dire que c'est dans une situation avec un département qui était français, dirigé par le ministère de l'Intérieur.
Oui.
Et qui était habité en grande majorité de population qui n'avait pas la citoyenneté française. En dehors des Juifs, qui avaient bénéficié des accords Crémieux, et puis d'une immigration européenne qui s'est accélérée ensuite, alors au départ avec ce qu'on pourrait appeler des exilés politiques, hein, des communards, les Alsaciens.
À partir de 1870, sans doute.
1870, ah, bien sûr. Et puis beaucoup de gens du Languedoc-Roussillon aussi. Et puis après, une très grosse immigration espagnole. Mmh. Baléares, la région de Murcie, et puis des Siciliens et des Maltais.
Donc, un département entre guillemets, hein, faut vraiment mettre des guillemets, parce qu'on voit qu'il n'est en rien comparable au département français. Mmh. Pour les autres pays qui constituent le Maghreb, et pour lesquels la France a fait aussi cette opération, je ne sais pas qu'on peut appeler ça, d'invasion, j'en sais rien, Maroc, Tunisie, est-ce que c'est la même situation? Est-ce que c'est les mêmes statuts? Comment ça fonctionne dans ces pays-là?
Dans ces cas-là, on est dans des systèmes de protectorat, c'est-à-dire que ce sont des administrations très cadrées, entre guillemets.
Mais qui donnent une petite marge d'autonomie au pouvoir local?
Oui, une petite marge d'autonomie, mais elle est quand même assez limitée. Hein, quand même.
Très bien.
La politique étrangère dépend des Français, et puis on laisse quelques miettes, entre guillemets, l'administration marocaine et tunisienne.
D'accord.
Et pour revenir à l'Algérie, donc l'Algérie n'est pas un protectorat, c'est une colonie.
C'est une colonie et un département.
En fait, c'est la France.
L'Algérie, c'est la France, oui. Juridiquement et politiquement, bien sûr. Oui.
D'accord. Les trois départements et la zone du Sahara, on peut l'appeler comment, cette zone?
C'était une zone gérée par les militaires.
Donc, excusez-moi, et c'est resté longtemps d'ailleurs.
C'est resté très longtemps, jusqu'à une des 70. Et notamment gérée par les troupes méharistes, les troupes du Sahara.
Alors, est-ce qu'il n'y a pas eu des résistances en Algérie ou ailleurs?
Si, ça n'a pas été. L'Algérie n'a pas été un long fleuve tranquille,
ouais.
Pour reprendre un peu le film de Châtillaise. Il y a eu des résistances entre 1830 et 1839, notamment par l'émir Abdelkader, qui avait réussi à rallier entre différentes tribus berbères, et qui avait pour capitale Médéa, donc une commune qui est. À plusieurs kilomètres d'Alger, dizaines de kilomètres d'Alger.
Mmh.
Une résistance qui a duré 9 ans avant que l'émir Abdelkader soit envoyé à la Réunion, puis ensuite à Damas.
Mmh.
Et ensuite, on a eu aussi une autre révolte, qui est la révolte, ce qu'on appelle des Mokranis en Kabylie, donc, qui a duré un peu moins de 10 mois.
C'est quoi les Mokranis? C'est un peuple? C'est quoi?
C'est d'une famille, ce qu'on pourrait appeler des tribus, si vous voulez. Une tribu.
D'accord.
Une révolte qui a été très importante dans les montagnes. Il faut savoir que la Kabylie, c'est des montagnes qui sont assez difficiles d'accès.
Mmh. Oui,
des
donc populations propices à une résistance.
Et puis une résistance venant d'hommes très endurants. Et une résistance qui s'est un peu, disons, exportée par la suite, entre guillemets, puisque près de 200 Kabyles ont ensuite été déportés en Nouvelle-Calédonie, où il reste des descendants encore actuellement.
Alors, donc, évidemment, on voit ces résistances, mais est-ce qu'il n'y a pas des représailles, hormis des déportations? Est-ce qu'il n'y a pas encore d'autres représailles possibles?
C'est-à-dire du type militaire?
Militaire, confiscation des terres, ou je ne sais
si,
quoi.
Si, bien sûr, il y a eu beaucoup de confiscations des terres, faites notamment par des colons, qui ont pu récupérer ces terres, même si ensuite ils les ont administrées et parfois développées. Hein. Mais il y a eu, bien sûr, des confiscations de terres, notamment dans les villes, à la campagne. Ça a été drastique.
Ouais. D'accord.
Ça n'est plus que attiser les haines, à mon avis, non?
Les haines, elles sont encore aujourd'hui. Ce qui explique un peu le drame, on en reparlera un peu tout à l'heure très brièvement, la guerre d'Algérie, c'est que beaucoup de paysans ont été ensuite exclus de leurs propres terres. Ça a été très complexe. Oui.
Donc cette spoliation qui a duré dans le temps a été une base forte pour créer du ressentiment et de la tension qui allait exploser avec la guerre d'Algérie, alors.
L'histoire entre la France et l'Algérie, comme me rappelait Marc Ferraud, c'est une histoire d'amour et de haine.
Ouais.
Mmh. Et d'ailleurs beaucoup d'incompréhension.
Je veux pas être politiquement incorrect, mais il est où l'amour? Parce que là, pour l'instant, un pays arrive, annexe, spolie.
Il va y avoir des liens affectifs quand même, qui va être, en effet, ça peut paraître un peu pas évident au départ, mais il va y avoir quand même un certain ressentiment vis-à-vis de la France. Beaucoup d'Algériens ont combattu pour la France quand même, donc il y a quand même des liens militaires, et puis la langue. Une certaine élite est quand même très francophile, hein, beaucoup d'écrivains de langue française, donc c'est plutôt un amour qui est culturel, bien sûr, plutôt que politique, mais qui existe quand même.
D'accord.
Et l'Algérie, c'est vraiment une mosaïque de peuples différents, parce qu'il y avait des Français, des Espagnols, des Italiens, des musulmans, et ça fonctionnait à peu près dans la vie de tous les jours.
Les gens se côtoyaient en réalité. Les mariages mixtes n'existaient pas. Ils n'existaient pas entre les Juifs et les Européens, très peu. Ils n'existaient pas du tout entre les musulmans et les Français.
Oui, évidemment.
Et en réalité, les Français, ce qu'on appelait les pieds noirs après, se sont en réalité et uniquement été égaux, entre guillemets, dans les tranchées, dans la Somme. Et puis à Monte Cassino, dans la première armée de l'Âtre.
Tout à fait.
C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont connu une égalité civique que les armes à la main.
Et une vraie fraternité. Et la fraternité, c'est souvent une fraternité au combat, mais en dehors.
Après, c'est vite dissipé après. Hein.
Ouais, c'est ça. D'accord.
Alors, suite au traité de Fès, qui donne naissance au protectorat marocain, il y a dû y avoir aussi des vives réactions, notamment dans le Rif, il me semble.
Oui, il y a eu des rivalités dans le Rif. Alors, contre les Espagnols, puisqu'il faut savoir que le Maroc, qui était occupé au nord, notamment dans la région de Tétouan, par les Espagnols, et que les Espagnols ont toujours d'ailleurs revendiqué une très grande partie du Maroc jusqu'à Oran, d'ailleurs en Algérie. Et il va y avoir ce que l'on appelle le désastre d'Annual, donc en 1921, où les Espagnols vont être encerclés par les troupes d'un homme qui s'appelait Abdelkrim, qui est un peu le Abdelkader rifain, si vous souhaitez, une grande figure de l'anticolonialisme même en Europe, et qui va massacrer des troupes espagnoles. Et surtout les mutilés, ce qui va choquer un peu l'opinion publique.
On est en quelle année là? Parce que le traité de Fès déjà, c'est en quelle année?
1912.
Et pourquoi contre le Maroc, ce traité de Fès concerne, je croyais qu'il concernait la France et le statut du protectorat, en quoi il concerne l'Espagne?
Parce que certaines zones vont être ensuite... Il faut savoir que le Maroc a été aussi pendant très longtemps contesté par l'Allemagne. Les Allemands voulaient le Maroc.
Bref, tout le monde voulait le Maroc, quoi. L'Espagne, Français, l'Allemagne.
Ça suffit, je
Portugal
crois.
Aussi, non?
Petit peu sur le sud, mais c'était surtout l'Espagne au nord, l'Allemagne, qui était un petit peu jalouse, du moins, de manquer un peu de débouchés en Méditerranée.
Tout à fait.
Et puis la France, qui a réussi progressivement à récupérer une très grande partie du territoire.
Oui, c'est le fameux coup d'Agadir en 1911. Il y a eu une très forte tension.
Oui, 1905 aussi à Tanger.
Oui.
Donc Tanger. C'est un des éléments de la tension.
C'est deux conflits qui vont être assez violents. Et il faut savoir que, contrairement à la légende qui voudrait que les années 20 ont été des périodes sans guerre, elles ont été sans guerre sur le territoire métropolitain, mais les Français ont en effet participé à la guerre du Rif.
Bien sûr.
Notamment avec un général qui s'appelle le général Pétain.
Qui était maréchal, là, qui venait passer maréchal.
Oui. Et qui était c'était une répression très violente. Hein. Les Espagnols ont utilisé notamment le gaz moutarde qui était interdit par les conventions internationales. Et c'est une période qui est un peu oubliée parce que très souvent il y avait peu d'appelés.
Oui.
Mais il n'empêche que ça a été des batailles, comme toutes les batailles coloniales, assez violentes.
Ouais.
Ok. Alors. Peut-être faire une brève allusion à la Tunisie, parce qu'on n'a quasiment rien dit sur la Tunisie. Alors la Tunisie, c'est le traité du Bardo, c'est 1881, il me semble. J'avais lu plus ou moins qu'en fait, ça avait rendu furieux l'Italie. Pourquoi?
En fait, c'est un deal qu'il y a eu entre les Anglais et les Français. Donc, les Français avaient laissé Malte aux Anglais, qui était une clé de la Méditerranée, notamment orientale. Et les Anglais avaient décidé de laisser en réalité la Tunisie aux Français, un petit peu comme compensation.
Okay.
Alors les Italiens, dans leur construction politique, avaient toujours eu des visées avec la Tunisie qui est très proche
Bien sûr.
De l'Italie. L'Italie d'ailleurs récupérera par la suite, en 1911 la Libye.
Oui.
Et donc les Italiens étaient furax, bien sûr, de voir la République sœur récupérer un territoire qu'elle espérait elle aussi avoir. Il faut quand même rappeler qu'on est dans une période où l'Afrique n'est pas un agrégat de peuples, mais un fromage à se partager entre pays européens.
Oui, c'est la vision de l'Afrique par l'Europe. Ça. Ouais.
Alors, est-ce qu'on peut dire que la conséquence de tout ça, c'est l'alliance de l'Italie avec l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie au sein de la guerre de 14?
Oui, alors c'est une des... C'est l'alliance des Italiens, mais pas que.
D'accord.
Pas que non plus.
Alors, on va peut-être aussi maintenant parler de la naissance des mouvements nationalistes. Mmh. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, Cyril?
Il faut savoir que les années 20, ça a été premièrement la rencontre avec la métropole de certains tirailleurs qui ont vu que les Français et les Allemands étaient capables de s'entre-déchirer et de parfois perdre. Donc ça a été un révélateur quand même que les Européens pouvaient perdre et étaient invincibles. Ça a été aussi beaucoup de frustration de la part de certains tirailleurs qui espéraient bénéficier de la citoyenneté française.
Oui.
Tous ne l'ont pas eu. Et ça a été aussi la découverte aussi pour un grand nombre de main-d'œuvre, notamment Kabyle, dans la région de Paris, qui était venu travailler durant la guerre de 14-18 pour les usines Renault.
Oui.
Et qui ont découvert le marxisme et le syndicalisme.
Ah ah, d'accord.
Donc on est dans un mélange, si vous voulez, de nationalisme et de marxisme, puisque cette période notamment... j'ai plus en tête, je ne me rappelle plus, c'est 1927-1928, que va être créée notamment l'Étoile nord-africaine, qui est le premier parti ou mouvement anticolonialiste algérien, par un homme qui s'appelle Messali Hadj, qui est un ancien tirailleur et qui ensuite est un peu le père du nationalisme algérien en Algérie.
Et c'est là que naître les pensées socialistes, marxistes, etc.
Etc. Bien sûr, c'est la même période d'ailleurs qu'un homme qui s'appelait Ho Chi Minh, et qui était serveur à Marseille, a découvert le marxisme et puis l'anticolonialisme. Et c'est là encore une fois, pour reprendre la discussion de tout à l'heure sur la France, ces gens-là ont aussi vu que les métropolitains n'avaient pas du tout la même attitude envers les travailleurs maghrébins et coloniaux que les relations très très froides qu'ils pouvaient avoir avec les Européens en Algérie et dans les colonies.
D'accord, ok. Ouais. Donc ça leur permet de mettre en perspective tout ça et de changer, de penser que les choses peuvent être différentes.
Donc ces mouvements nationalistes sont aussi marxistes. Et je pense que ça s'est vu au départ au moment des indépendances. Maroc, de la Tunisie en 56, que je ne dis pas de bêtises, et évidemment avec les accords d'Évian qui vont mettre fin à la guerre d'Algérie en mars 1962.
Alors, le Maroc, c'est un peu plus compliqué. L'euro du Maroc n'a jamais été un pro-communiste, c'est le moins qu'on puisse dire.
Oui, non, c'est sûr.
Ça a été d'ailleurs alors les communistes, notamment les communistes juifs, notamment de Fès, notamment, ont joué un rôle important avec les socialistes de Benjamin Barka dans l'anticolonialisme, avec un parti de centre-gauche qui s'appelait l'Istiqlal. Mais cette mouvance-là, une fois que l'indépendance a été faite, ont été plus ou moins étroitement surveillés par le pouvoir du roi. Par contre, il est vrai que le socialisme, ou un pouvoir plutôt socialisant, entre guillemets, parce qu'on pourrait en parler pendant des heures, du FLN et puis des Tunisiens ont été très proches en effet du bloc de l'Est sans pour autant non plus l'appartenir.
Alors on ne va pas développer toute cette question de l'indépendance de l'Algérie, puisque comme je l'ai dit, on fera une émission là-dessus et on pourra en même temps évoquer à titre de comparaison comment la séparation avec la Tunisie et le Maroc se sont passées de façon infiniment moins rude. Donc on va faire pour l'instant une petite pause musicale et puis on reprendra le cours de notre débat juste après. C'est parti. Sound. Degenerate the faithful. Écoutez Radio Calade 100.9 ou sur internet radio-calade.fr. Vous écoutez Poker Menteur, votre émission favorite mensuelle. Aujourd'hui, nous parlons du Maghreb avec un invité qui est Cyril Garcia, qui est avec nous, qui est historien, spécialiste du Maghreb. Et nous avons pas mal avancé. Nous avons parlé du 19e, 20e siècle jusqu'à la guerre d'Algérie que nous traiterons dans une autre émission. Et je laisse à nouveau la parole à Franck pour continuer notre petit bonhomme de chemin.
Poker menteur.
Poker menteur.
Galade. Dans l'évolution chronologique, à partir du moment où les trois États donc, sont indépendants, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, surtout l'Algérie donc, en 1962, quelles vont être les relations entre la France et ces États jusque dans les années 80? Qu'est-ce qu'on peut en dire?
Alors, les relations avec l'Algérie, d'un point de vue officiel, je parle bien,
oui,
ont été assez froides. Le premier président à s'être déplacé, c'est Valéry Giscard d'Estaing.
Mmh. Oui, donc c'est tardif. Hein.
Ah, oui.
c'est Giscard d'Estaing, c'est 74-75.
C'est tardif, oui, c'est tardif. Ah, oui. Pourtant, Valéry Giscard d'Estaing avait autour de lui des personnalités qui n'étaient pas très algériennes, c'est le moins qu'on puisse dire à l'époque, au sein de l'UDF. Mais surtout, il y a eu quand même une coopération d'État et de la part de citoyens français, dans ce qu'on appelle les coopérations. Puisque l'État n'est pas parti du jour au lendemain, c'est un vieux mythe. Ce sera l'objet d'un ouvrage sur lequel je travaille actuellement. L'État n'est pas parti actuellement, n'est pas parti puisque, premièrement, il fallait qu'il y ait quand même une certaine continuité.
Oui.
C'est-à-dire que, je donne un exemple, en Algérie, en septembre, les instituteurs étaient quand même français.
Ah,
il faut
quand même
le rappeler.
Seulement,
le problème, c'est quid de la rentrée scolaire.
Oui.
Donc il va y avoir ce qu'on appelle les pieds rouges, donc c'est-à-dire beaucoup de gens qui avaient participé à la guerre d'Algérie, mais côté FLN, notamment dans les réseaux Janson, les porteurs de valises, et des coopérants plus classiques qui ont décidé de venir travailler comme enseignants en Algérie, et aussi au Maroc et en Tunisie.
Okay.
Autre aspect, on pourra en donner d'autres, mais par exemple, le noyau de l'armée marocaine et l'armée tunisienne, c'était quand même des anciens tirailleurs, notamment des gens qui avaient combattu en Indochine et durant la Seconde Guerre mondiale. Donc quand il y a eu le basculement, notamment pour les forces armées royales au Maroc, ce sont des officiers français, je pense notamment au général Méric, qui était compagnon de la libération avec les tabors marocains, qui ont assuré, disons, la formation des effectifs.
Et est-ce qu'il y avait une présence militaire, par exemple, en Algérie?
Oui, bien sûr. Jusqu'au début des années 70, il y a eu une présence militaire, notamment liée à deux choses. Contrairement à ce qu'on raconte, les accords d'Évian n'ont pas laissé à l'Algérie les ressources pétrolières, je veux dire, dès le départ, puisque...
Ah bon ?
Tout à fait.
Oui, on a eu des... Oui, dans mon vieil, la société Elf, qui ne s'appelait pas Elf à l'époque, compagnie pétrolière du Sahara.
Oui.
Et puis, bien sûr, la question des essais nucléaires.
Tout à fait.
Ah oui,
à Reagan.
Dans le désert.
Hein.
Reagan, en 1960.
Ouais.
On en a fait combien? Enfin, la France, on a fait combien?
Une dizaine.
Une dizaine, quand même.
Avant de basculer à Muroa, dans le Pacifique.
Donc, se met en place ce pouvoir, enfin, en Algérie socialiste, quand même. Et donc, les relations sont malgré tout assez distantes durant un certain temps, puisque Giscard n'arrive que 10 ans après, en quelque sorte. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre alors dans cette période post-guerre d'Algérie ?
Il y a plusieurs raisons. Premièrement, il y a une immigration qui commence à arriver, l'immigration algérienne, marocaine un peu plus tardivement, notamment dans le sud-ouest. Donc il va y avoir le problème des gestions de flux, puisque les Algériens se retrouvent avec des paysans, mais pas d'appareil productif pour pouvoir leur donner du travail. Et les Français se retrouvent aussi dans une période de Trente Glorieuses où il faut aussi pouvoir avoir des bras pour travailler dans l'industrie lourde.
Besoin de main d'œuvre important pour fournir l'industrie, oui.
Donc, tout à fait. Et je me permets de le rajouter, il a fallu quand même accueillir 1 million, donc c'est ça, de pieds noirs.
C'est énorme.
Il fallait les loger.
Ça crée notamment des tensions, je rappelle des tensions en Corse.
Bien sûr.
Le fameux Aléria. Et puis les Harkis, qui
tout
sont les grands oubliés de l'histoire, qui sont retrouvés quand même dans des camps à Rivesaltes, dans la région de Nîmes notamment, et qui sont retrouvés dans une situation catastrophique, puisqu'on était face à des anciens soldats qui n'étaient plus algériens et qui étaient absolument déconsidérés par la France. Donc ça a créé quand même pas mal de.
En fait, ils étaient mal vus des deux côtés.
Oui, bien sûr, ils étaient. Je parle le terme de nulle part, ils n'étaient pas nulle part, mais. Dans les consciences, il était quand même dans une situation qui était très très compliquée. Oui.
Et il ne pouvait pas rester en Algérie de toute façon.
Ah non.
C'est pas possible.
Très peu d'Harkis ont pu rester en Algérie.
Quelque part, on pourrait dire que tout le monde avait envie de les oublier. Hein. Aussi bien du côté algérien, on ne voulait plus entendre parler d'eux, et du côté français, on n'avait pas très envie.
En fait, ce n'est pas les Harkis qu'on voulait oublier, c'est la guerre d'Algérie qu'on voulait oublier.
Oui. Et donc les Harkis étaient un peu un point.
Parce qu'on avait quand même plus d'un million du contingent français qui avait été envoyé sur place sans savoir trop pourquoi, qui revenait. On avait. La guerre d'Algérie, c'est aussi en France, on en reparlera une autre fois, la déconstruction des gauches et des droites, qui est traditionnelle. Ça a été la 5e République, ça a un impact encore aujourd'hui de notre vie, de manière inconsciente, bien sûr, mais importante.
D'accord.
Pour la première fois, on était très proche d'une guerre civile.
On y reviendra sur la guerre d'Algérie.
Alors, on peut maintenant un peu avancer dans le temps, parlons de la guerre civile dans les années 90. Qu'est-ce qui se passe en Algérie à ce moment-là ?
Oui, revenons à une autre guerre, la guerre civile algérienne.
C'est la guerre c'est une guerre atroce pour les Algériens, puisque c'est, comme toutes les guerres civiles, ça laisse des traces profondes. On a eu dans les années 80 de multiples crises, en Kabylie notamment au début des années 80, puis en 88 à Alger. Puisqu'on s'est retrouvé dans une situation où il y avait un chômage très très fort. Des populations venues des villes, devenues des campagnes, qui se retrouvaient dans des villes, notamment pour les plus jeunes, à tenir les murs, puisqu'il n'y avait pas d'emploi. La démographie algérienne, c'est quand même important, était la première en Afrique. On était à 7 enfants par femme.
Tout à fait.
En 81, 7 enfants par femme.
Donc là, créer de l'emploi pour tout le monde dans ces conditions, c'est une gageure.
En plus, on avait des problèmes de type sociaux. Puisqu'on était déjà avec des gens qui avaient des mœurs, des campagnes, entre guillemets, qui se retrouvaient dans une crise du logement serrée à Alger, dans les grandes villes.
Oui, d'accord.
Et un pouvoir qui était, d'une certaine manière, avec une répression assez importante.
Pouvoir autoritaire.
Ça a toujours été un pouvoir militaire, l'Algérie.
C'est toujours été un pouvoir militaire. C'est la LN qui a récupéré le morceau.
Mais on voit qu'il y a des élections. Est-ce qu'à l'époque, déjà, il y avait des élections?
Non, il n'y a pas d'élections.
Ah non, c'est arrivé après.
C'est arrivé après.
D'accord.
C'est arrivé courant 1991.
Ah, d'accord. Okay.
Il y a eu des élections en 89. Il y a eu des élections municipales, mais qui étaient des semblants d'élections municipales, entre guillemets. Et la constitution. Le pouvoir algérien est obligé, après 88 et les émeutes en 88, de libéraliser un petit peu et de permettre aux opposants de pouvoir revenir. Le problème, c'est que les opposants, il y en avait très peu. Il y avait ce qu'on appelait le force socialiste, qui était dirigé par peut-être le plus brillant, Ramdan, le plus brillant intellectuel du FLN, qui s'appelait Aït Ahmed, qui était en Suisse, qui était un Kabyle, c'est-à-dire que les forces étaient essentiellement Kabylie et un peu Alger, où il y a beaucoup de Kabyles notamment. On avait les structures du FLN classiques, et puis on avait un autre larron, on avait un peu oublié, qui était formé en grande partie d'intellectuels qui avaient été scolarisés notamment en Égypte, et très proche des frères musulmans, qu'on appelait le Front islamique du salut, qui vont créer le Front islamique du salut.
Le fameux Front islamique du salut, qui va être la puissance montante. Et là, on est dans un moment historique, début des années 90, où il y a ce point de bascule entre l'alternative, je dirais, au pouvoir impérialiste capitaliste, qui était le socialisme, le marxisme, et qui va peu à peu s'effondrer et laisser la place à l'alternative, qui est plutôt une alternative religieuse, en quelque sorte.
C'est qu'en réalité, le fils va occuper la place que l'État ne pouvait plus assurer.
Ouais.
C'est-à-dire que socialement, vous avez des dizaines et des dizaines centaines de chômeurs, des jeunes chômeurs en plus, en pleine force de l'âge, ouais. qui tiennent les murs. Et de l'autre, vous avez des leaders charismatiques comme Madani, par exemple, ou Belhadj, qui sont dans les mosquées et qui ont un discours social, un discours anti-élite, puisque la grogne va bien sûr se téléporter sur l'État, hein, qui est responsable quand même de ce délitement pour les jeunes.
Oui.
Et puis une fonction sociale importante.
Oui, c'est ça.
Est-ce qu'on pourrait dire que c'est une forme de populisme religieux ?
C'est un populisme religieux, bien sûr.
D'accord.
Okay. Oui, clairement. Oui.
Alors pourquoi ça tourne en guerre civile, hein ? Puisque tu nous dis qu'il y a des élections en 91, c'est ça ? Pourquoi ça tourne en guerre civile ?
Parce que l'armée va arrêter le processus électoral.
Ah.
Devant le fait que le fils était en train de... Il faut quand même rappeler que le fils avait récupéré des mairies importantes, comme Alger notamment.
Donc victoire forte du fils.
Au municipal.
Ouais.
Législative, il faut une percée importante.
Ouais.
Et devant le risque justement que le fils ait le pouvoir, l'armée décide d'arrêter le
processus démocratique.
Le processus électoral.
D'accord.
Et là, nous sommes dans quelle année ? 91 ?
91.
Et c'est là que démarre
une guerre civile qui va durer jusqu'au début des années 2000, quand même.
Et qui va être d'un niveau de violence absolument incroyable.
Absolument incroyable, avec des ramifications en France, on se rappelle de Raed Kelkal, etc.
Bien sûr.
On est aussi dans une période, il faut comme le rappeler, en 1979, il y a l'Ayatollah Khomeini.
Oui.
En Afghanistan, on a une partie de la CIA qui arme des islamistes, les moudjahidines, contre les communistes.
Tout à fait.
Donc on a beaucoup d'Algériens qui sont fait les dents, entre guillemets, militairement en Afghanistan, et qui reviennent et qui ont une vision qui n'est plus une religion seulement culturelle, on va dire, de l'islam, mais une vision qui est politique.
Oui.
Et qui va se répertorier sur l'Algérie. Donc on estime à peu près, alors il y a toujours une bataille des chiffres sur le nombre de morts. Moi, il faut figer, ce serait 120 000. D'autres parlent de 200 000.
Ouais.
On est sur une tranche quand même qui dépasse, qui serait entre 120 000 et 200 000.
Alors il y a eu des massacres absolument terribles de villages, etc. Et puis toujours ces éternelles questions, moi je vois ça en néophyte, hein. Moi je suis pas historien, j'y connais rien, mais ces éternelles questions où tout le monde se renvoyait la balle, non c'est le fils, non c'est l'armée, et vu de loin, c'est-à-dire d'ici on ne sait pas trop, mais ce qu'on sait c'est qu'il y a eu un nombre de morts absolument colossal.
Dans toutes les guerres civiles... Malheureusement, les traces sont profondes. Hein, je veux dire, est-ce qu'on se relève vraiment d'une guerre civile ?
Mais est-ce que l'armée aussi a fait des massacres ?
Il y a eu des règlements de compte. Hein, je veux dire, l'armée a utilisé aussi des moyens qui n'étaient pas toujours conventionnels. Mais dans ces périodes de flou, entre guillemets, personne n'est tout blanc ou tout noir. Mais,
alors, une petite question par rapport à l'armée. Est-ce que l'armée a reçu les pouvoirs de police ou pas ?
Oui.
D'accord. Oui.
Alors, ça c'est.
On imagine les conséquences.
Ça s'est terminé comment ? Ça a duré une dizaine d'années à peu près.
Une dizaine d'années. Bouteflika, c'est ce qui explique d'ailleurs sa popularité, même si elle est sûr aujourd'hui un peu caduque, a réussi tout du moins à faire une sorte de paix des braves. Donc beaucoup d'islamistes ont été envoyés en prison. Les règlements de compte ont été, après le cessez-le-feu, très maigres. Certains militaires ont même parfois été jugés pour des règlements de compte. Et il y a eu un pacte, entre guillemets, entre les plus modérés des islamistes, si tant est qu'on puisse être un islamiste modéré, mais ce que je veux dire, parmi les plus...
Oui, bien sûr. Les moins
durs. Les mouvements les plus libéraux, entre guillemets, qui avaient pu soutenir, par effet de contestation, le fils dans les premiers temps, il y a eu quelques pactes, entre guillemets, entre les conservateurs et puis Bouteflika, afin de rallier une certaine frange de ces populations et essayer de faire une concorde, entre guillemets.
Ouais.
Est-ce qu'on peut dire, par exemple, que si on avait laissé les élections se dérouler... Est-ce qu'un État islamique aurait pu prendre le pouvoir en Algérie ?
Oui.
D'accord.
Mais encore une fois, oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Oui, ça allait très loin.
Hein. Ça aurait fait un peu peur à la France, quand même, parce qu'on n'est quand même pas loin. Hein.
Le problème de la France, c'est que...
Oui.
Il y a eu un truc... Non, mais je sais ce que je veux dire, mais le problème, c'est... François Mitterrand n'a pas été très clair, entre guillemets.
Oui.
Il estimait que les islamistes pouvaient remporter.
Oui.
Et les Algériens les plus progressistes ont été très très déçus, encore une fois, par le titre de la France, puisque il n'y a eu aucune aide pour les dissidents. On sait aujourd'hui que François Mitterrand a reçu certains dignitaires du fils pour préparer, disons, une possible victoire en 91. Oui. Les plus ardents, disons... pro-FLN, si on peut parler ce terme, ont été les gaullistes de Pasqua. Hein. Alors, on peut l'expliquer parce qu'il y avait eu bien sûr des liens entre les gaullistes des services de police ou des services de renseignement depuis 1962. Il y avait des amitiés qui existaient. Hein. Mais surtout, il y avait une farouche volonté de maintenir des liens avec le FLN et de combattre l'islamisme.
D'accord.
Alors, parlons maintenant des pays voisins, parlons des printemps arabes, notamment.
Alors là, on va sauter une dizaine d'années.
On
hein,
va sauter quelques...
Printemps arabes, c'est fin des années 2010.
On est en 2000...
enfin, 2011,
il me semble, c'est ça?
Quoi qu'il arrive, elle ne dure qu'une heure, l'émission.
Oui.
Donc c'est vite vu, on saute.
Alors, la Tunisie, qu'est-ce qui se passe en Tunisie?
La Tunisie, c'est un pareil, on est sur un État qui était laïque et progressiste, et qui ensuite est devenu un pouvoir personnalisé par quelques familles. Famille Benani, les familles Trabelsi. Mm-hmm. Un pays qui frôle, malgré une industrie qui fonctionne un peu sur les côtes, mais qui frôle les 25% de chômage.
Tu parles du chômage.
Chômage
massif.
Des familles de la bourgeoisie de Tunis, de Bizerte, etc., qui ont la main sur l'ensemble du pactole. Mm-hmm. Une corruption importante, un pouvoir policier. Donc qu'est-ce qui se passe? Ben, ça éclate, un fait divers, un marchand ambulant s'immole, et puis ça va déclencher en Tunisie, puis après en Égypte, hein, mais bon, l'Égypte n'est pas dans notre conversation, une crise très importante. Mmh. Il faut savoir que sur place, en dehors des islamistes, qui commençaient, à la manière des frères musulmans, à s'infiltrer un peu dans certains appareils, la dissidence était essentiellement en France et un peu en Italie, notamment chez quelques sociodémocrates, quelques communistes. Mais donc quand le printemps arabe a réussi, quand la famille Ben Ali a été obligée de partir, ils se sont retrouvés avec les islamistes au pouvoir pendant quelques temps.
D'accord.
Mais parce que c'était la seule opposition qui restait sur place et qui avait réussi à s'infiltrer, entre guillemets, chez les manifestants.
Alors, une parenthèse, les Ben Ali sont où maintenant ?
Bonne question. Ils sont en prison.
Oui.
Bonne question. Certains seraient, je crois, dans la péninsule arabique, il me semble, de mémoire.
D'accord.
Ou... Alors là, c'est, je sais, j'ai plus en tête. Ils sont dans la péninsule arabique, il me semble, mais à vérifier.
Alors, les destins ont été différents, parce qu'au Maroc, même s'il y a eu des velléités, le pouvoir est resté assez solide.
C'est très différent, le pouvoir.
Ouais. Et en Algérie, il n'y a pas eu de printemps arabe, puisqu'il y a eu la guerre avant, qui était peut-être l'équivalent, beaucoup plus violent.
Au Maroc, il y a le roi. Ouais. Le roi, c'est un militaire qui est religieux, qui est politique, qui est respecté, qui a essuyé deux coups d'État, mais qui est là, qui est un descendant, selon la tradition du prophète, hein. Donc c'est un dignitaire religieux. Donc au Maroc, la question ne se passe pas. Au Maroc, les problèmes qu'il y a, c'est essentiellement des problèmes qui sont liés au problème du RIF, donc la région berbère qu'on a citée tout à l'heure, qui est une région qui a été totalement délaissée par le pouvoir royal et qui est une région explosive, puisque l'été dernier, il y a deux ans maintenant, un an et demi, il y a eu des révoltes berbères assez importantes. Et puis même les islamistes sont plutôt très bien cadrés par le renseignement marocain. Il n'y a pas de risque spécifique au Maroc.
Ok.
Je peux vous le confirmer. Enfin, de ce que j'ai vu moi quand j'étais à Marrakech le mois dernier, déjà une forte présence policière.
Non, mais les services marocains font partie des services les plus aiguisés en question du terrorisme, non pas seulement en Méditerranée, mais je rappelle quand même que elle a filé un grand coup de main à la police française pour les derniers. Pour les terroristes du Bataclan. Hein.
D'accord. Lors des derniers attentats.
Il y a un contrôle sur l'immigration belge, hollandaise et française qui est important de la part du Maroc et des autorités marocaines. Et pour l'Algérie, ben, tout simplement, il y a la peur probablement d'être en guerre civile.
Ouais.
Je veux dire,
ouais, bien sûr.
On ne s'en rend pas compte. Nous en France, c'est normal, ce que je disais à France Inter, un interlocuteur. Pour nous, notre prise, c'est la guerre d'Algérie. Mais pour les Algériens, je veux dire, pour les populations qui ont vécu la guerre civile, c'est la guerre civile. Il y a toujours une volonté d'échapper à cela.
Oui, je comprends.
Très bien. Et peut-être un tout petit peu parler de la Libye, parce qu'on n'a quasiment pas parlé.
Oui, c'est vrai qu'on a un peu parlé de la Libye, puisque c'est, en effet, c'est un territoire, c'est une colonie qui a été une colonie italienne, donc de 1911 jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors, certains noms sont connus, comme Tobrouk, etc., Bir Hakeim, par rapport à la Seconde Guerre mondiale, et au combat qu'ont pu mener les Anglais et la France libre. Mais le général Kadhafi, en fait, a eu des relations assez tumultueuses avec la France. Dans les années 70,
oui, c'est sûr. Dire.
Dans les années 70, il a acheté pas mal d'armes
à l'industrie française,
d'armement. Dans les années 80, c'est tendu, notamment quand il a souhaité mener une politique panafricaine et socialisante.
Oui. Tout à fait.
Après, il y a eu dans les années 2000 l'affaire des infirmières bulgares, notamment sous Nicolas Sarkozy. avec le rôle diplomatique symbolique de Carla Bruni, mais qui avait quand même fonctionné. On avait réussi quand même à les libérer.
Oui.
Et puis ensuite, on a eu, bien sûr, ce poker menteur, pour reprendre le terme, entre Nicolas Sarkozy et puis Kadhafi, où d'un côté, Kadhafi se retrouve à l'Élysée, dans une scène ubuesque, entre guillemets.
Il met sa tente, c'est ça ?
Avec une passe d'armes entre, notamment, comment elle s'appelait, la secrétaire d'État aux droits de l'homme.
Ramayad,
merci. Et puis, Nicolas Sarkozy, merci Franck.
De rien.
Et puis ensuite, l'intervention française avec les Anglais et les Américains sur Kadhafi. Alors aujourd'hui, c'est une situation de chaos. Hein. C'est un pays qui est.
Oui, c'est sans doute là où il y a le plus de chaos.
Parce que disons que. Faut quand même rappeler que c'est trois régions berbères, le Fezzan, la Tripolitaine. Et puis l'autre, ça va me revenir à l'ouest,
c'est
la Cyrénaïque, merci. Oui. C'est une région de berbère qui a été unie par Kadhafi, entre guillemets. Donc c'est celui où l'État-nation est le moins bien formé. Et c'est un État qui vit bien grâce au pétrole, les populations. Et ce qui se passe, c'est qu'une fois que la Libye est tombée, il y a eu notamment des vengeances sur les populations qui venaient du Tchad, puisque la garde personnelle de Kadhafi était essentiellement des Tchadiens. C'est ce qui a donné d'ailleurs une situation de retour d'une certaine manière, d'un quasi-esclavage, sans compter les problèmes de partis politiques qui ne s'entendent pas, etc. etc., etc. quoi. Donc c'est un peu le chaos. Oui.
Très bien. On va faire une deuxième pause musicale et on terminera l'émission avec quelques réflexions sur aujourd'hui. C'est parti.
Poker menteur.
Galade.
Écoutez Poker Menteur sur Radio Calade, notre émission mensuelle consacrée au Maghreb avec un invité historien spécialiste du Maghreb, Cyril Garcia. Alors, je vais laisser la parole à Franck, mais avant, je n'oublie pas, nous venons d'écouter Rachid Taha, Yaraya. Alors, Rachid Taha, c'est un chanteur d'origine lyonnaise, d'accord, qui, dans les années 80, avait créé le groupe de rock Carte de Séjour, qui avait fait grand bruit en reprenant Douce France, avec l'accord et le soutien de Charles Trenet. Et il est mort récemment, c'était un très grand chanteur, très très bien engagé et un grand chanteur de rail. Voilà, Franck, je te laisse la parole pour, en guise de conclusion, le Maghreb aujourd'hui.
Le Maghreb aujourd'hui et demain. Alors, on peut déjà éventuellement commencer par l'Union méditerranéenne, cette espèce de serpent de mer, qu'est-ce qu'on peut en dire de ça?
Oui, mais il y avait une volonté de la part de la France depuis longtemps, notamment avec l'Union européenne, de pouvoir créer une entente commerciale qui soit très forte. Alors, il y avait déjà eu des impacts signés à Barcelone, notamment pour la question de l'immigration. Nicolas Sarkozy avait voulu accélérer, disons, le processus avec cette union pour la Méditerranée. Les Français espéraient en réalité faire un peu le coup qu'avaient fait les Allemands avec l'Europe de l'Est.
Ça veut dire
d'avoir une sorte de...
De base arrière pour faire une répartition économique.
D'arrière-cour économique.
Voilà, avec de la main-d'œuvre pas chère, une collaboration, des filiales, etc.
Qui marche bien d'ailleurs.
Bah oui.
Qui marche, au Maroc, l'automobile.
Ouais, ça marche pas mal.
Le textile en Tunisie, on a bien vu avec les stylos BIC qui partent en Tunisie.
Oui,
l'automobile. Donc, ça marchait. Mais le problème des Allemands, c'est que les Allemands, bon, contrairement au mythe de la grande Europe, on est tous frères et défendent leurs intérêts. Mmh. Et ils n'avaient pas spécialement envie de voir les Français récolter. Un peu.
Donc ils ont mis des bâtons dans les roues de ce projet.
Merkel n'était pas très contente.
Ouais, je comprends bien.
Angela était pas contente du tout.
Très bien.
Alors maintenant, on va parler aussi d'un pacte qui a été signé il n'y a pas longtemps, justement à Marrakech. Pacte de Marrakech, qu'est-ce qu'on pourrait en dire aussi?
Derrière ce pacte, c'est la question des migrations qu'on veut évoquer là.
Évidemment.
Le pacte, c'est un peu...
C'est directement lié à ceci.
Une occasion de parler de la question des migrations. On ne peut pas ne pas en parler.
Pour info, je vous donne simplement un chiffre, parce que j'ai bien regardé ça sur l'INED tout à l'heure. Nos pays là, du Maghreb, c'est environ 100 millions d'habitants. C'est à peu près autant que l'Égypte.
D'accord.
Donc en fait, il y a 200 millions d'habitants qui sont dans une situation où ils peuvent venir, a priori, ils pourraient venir relativement facilement dans les 10, 20, 30 années qui arrivent. Qu'est-ce que vous en pensez, Cyril ?
On peut être tenté par le.
Oui, mais après, le problème, c'est pas seulement le problème. La problématique n'est pas seulement liée aux Maghrébins, elle est surtout liée aux. Enfin, surtout et en partie liée aux Africains,
oui.
Ce qu'on appelle d'Afrique subsaharienne. Qui
mais là, parce que là, on parle du Maghreb, c'est pour ça.
Oui, mais je veux dire, mais justement, il y a un lien, c'est qu'en réalité. L'Algérie n'a pas voulu signer
le
pacte. Ils trouvaient que le texte était un peu flou. Le Maroc et la Tunisie souhaitaient depuis longtemps qu'il y ait une clarification, puisque c'est en grande partie en Tunisie, en Libye, au Maroc, que viennent s'entasser des populations d'origine africaine, panafricaine, subsaharienne, ivoirienne, etc., et sénégalaise un peu, nigérienne, et que ça crée aussi pas mal de tensions avec la population. Il y a un regain. Oui. J'ai signé un papier là, il n'y a pas longtemps sur la question d'un retour du racisme anti-noir dans ces territoires. C'est mon dernier papier.
À lire donc dans le blog Un Uber pour Tobrouk
ou sur le Sud Causeur, qui explique que ces tensions ravivent et qu'il y a comme une crainte de l'administration qu'il puisse y avoir un raidissement. Parce que les Marocains considèrent un peu comme les Français à Calais qu'ils récoltent un peu des fruits qu'ils n'ont pas semés, qu'ils ne veulent pas en réalité.
Donc pour vous, c'est plus l'aspect zone de transit entre l'Afrique subsaharienne et la France qui pose problème que la migration éventuelle de Maghrébins eux-mêmes.
Quand on a des pays comme l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, on pourrait parler un jour de l'immigration, mais l'immigration se passe. Il y a eu quand même une acclimatation qui est quand même assez lente en France. Bien sûr qu'il peut y avoir un problème de population algérienne, marocaine, tunisienne qui viennent en France. On l'a bien vu avec les Tunisiens quand il y a eu les printemps arabes. Et ça créerait beaucoup de problèmes, entre guillemets. Notamment de crispation dans l'opinion publique en France et en Europe.
Je crois que ça pourra faire l'objet d'une émission spécifique.
Mais
parce que c'est une vaste question.
Mais encore une fois, les pays du Maghreb ne souhaitent pas non plus avoir ces populations-là sur le sol France, sur le sol de leur propre pays.
Non, peut-être l'occasion de revenir sur ce sujet.
Alors terminons par le terrorisme et l'islamisme.
Thématique qui peut nous relier France, Maghreb, sous quelle forme?
Il faut savoir que les services de police travaillent étroitement. On a bien vu, je rappelle tout à l'heure, entre les services français et les services marocains.
Ouais.
Avec les services algériens, le débat se fait plutôt sur la question du Mali aujourd'hui.
D'accord.
Parce que vous me rappelez que l'armée algérienne et l'armée française sont obligées de collaborer ce qui est une première, entre guillemets, dans nos histoires contemporaines. Mmh. Ouais. Il y a un risque qui est important. On a vu à Casablanca que dernièrement, il y a certains prédicateurs qui ont été retrouvés. Il y a toujours la crainte en Algérie, justement, aussi, que ça puisse ressurgir. On l'a vu il y a 2-3 ans à Annaba. Il faut faire attention. Et c'est un objet de demain, de discussion entre nos deux contrées.
D'accord. Mmh. Très bien.
Eh bien, merci beaucoup, Cyril Garcia, pour cette intervention brillante.
Je reviens.
Qui suis-je ? J'ai été journaliste et prix Nobel en 1957 de littérature. Je suis mort dans un accident de voiture en 1960 dans le département de l'Yonne. Qui suis-je ?
Cyril, t'as une idée ? Moi, je ne vois pas du tout.
C'est vrai ?
Non. Alors,
j'exagère. Le roi de l'absurde ? L'étranger ?
Albert Camus.
Bien.
Bravo Cyril.
Et il a gagné une dinde pour Noël. Non, je plaisante.
Noël, c'est périmédicine.
Bien, l'émission se termine. Bonsoir Mathieu, bonsoir Cyril, bonsoir Patrick.
Bonsoir.
Et au mois prochain. Poker Menteur. Avec Patrick Trouillou dans le rôle de Patrick Trouillou
et Franck Bonnet dans le rôle de Franck Bonnet.
Poker Menteur. L'émission qui interroge le monde
de Villefranche à Tataouine.
Galade 100.9.